Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Vous êtes unique, votre établissement aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait votre force en tant que maison d'hôte, gîte ou hôtel indépendant. Vous êtes différent et c'est ce que vos clients ils aiment chez vous. Donc il faut absolument exposer votre personnalité au monde entier ou presque au travers de stories, de vos publications, dans vos légendes. Quelle est l'histoire de votre établissement? Qui se cache en fait derrière votre compte? Vous êtes unique, il faut vraiment le montrer. Et vous allez cartonner quoi, si vous faites ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Et oui, nous sommes en 2021 et les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication incontournables. Gratuits, accessibles n'importe où et n'importe quand, ils peuvent aussi s'avérer anxiogènes, chronophages et se retourner contre nous si nous n'apprenons pas un minimum à les utiliser correctement. Cela représente une formidable opportunité de promotion pour votre établissement. Avec les années et encore davantage dans le contexte actuel, Instagram s'est positionné comme un outil marketing puissant, à disposition gratuitement, de tous ceux qui cherchent à étendre leur visibilité et réaliser des ventes en direct. Mes invités sont unanimes. Instagram leur permet de créer une relation privilégiée auprès d'une audience grandissante, tout en laissant libre cours à leur créativité, spontanéité et plaisir. On est bien d'accord, on ne va pas non plus laisser dicter notre conduite par un algorithme. Grâce à Cécile Noël, social media manager spécialisée dans l'hôtellerie et le tourisme, nous décryptons les bonnes pratiques pour 2021. Cécile nous a même préparé un récap à télécharger sur le site des Clés du Gîte. Bonne écoute à tous! Bonjour Cécile et bienvenue dans les Clés du Gîte.
Salut Laura, merci à toi de m'accueillir.
Tu es donc social media manager spécialisée dans l'hôtellerie et le tourisme. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît?
Eh bien, t'as déjà raison, je m'appelle Cécile Noël et je suis social media manager ou community manager, c'est un terme qu'on connaît un petit peu mieux, et j'aide les hôteliers, les gérants de gîtes et les propriétaires de maisons d'hôtes à booster leur taux d'occupation grâce aux réseaux sociaux, et tout ça au travers de mon entreprise Noctis Communication.
Génial, alors quel a été ton parcours et les études pour arriver à créer ta propre entreprise ?
Eh bien, cela fait maintenant presque 7 ans que j'exerce dans la communication et le marketing digital, toujours appliquée au domaine du tourisme. J'ai par exemple été community manager pour un label touristique, chargée d'études de marché dans un cabinet de conseil en hôtellerie-restauration. Et ma dernière expérience salariée, j'étais responsable marketing d'un groupe de 21 hôtels qui étaient sous franchise Accor. Donc vraiment des postes très polyvalents, mais toujours tournés vers un objectif, le développement d'entreprises du tourisme.
Et qu'est-ce qui t'a fait justement cibler plutôt le tourisme qu'un autre domaine ?
Alors ça, c'est la question à chaque fois où j'ai un peu de mal à répondre. J'ai pris beaucoup de chemin dans des domaines différents dans mes études mon parcours universitaire, et j'étais tellement perdue que j'ai décidé de faire une année de césure et je suis partie aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me faisait vibrer en quelque sorte, c'était voyager. Et en rentrant des États-Unis, j'ai passé mon BTS tourisme, puis ensuite une licence responsable d'activités touristiques. C'est là où j'ai commencé vraiment à m'éclater et s'en est suivi les 7 ans d'expérience professionnelle dont je t'ai parlé, dont je viens de te parler.
Pour rentrer directement dans le sujet, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils indispensables pour nous aujourd'hui ?
Indispensables et d'ailleurs plus que jamais, j'ai envie de dire. 2020 et le début de cette année 2021 nous auront clairement montré que nos manières de communiquer, de consommer et même plus largement de vivre en fait, sont en train de profondément changer. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous pris conscience de l'importance presque vitale du digital. Et on l'a vu, ceux qui ont réussi à faire la différence en 2020 et même encore actuellement, ce sont ceux qui se sont adaptés, qui ont été proactifs dans leurs initiatives et qui ont continué tout simplement de communiquer. On a tous vécu cette période différemment et j'ai vu dans notre secteur nombreux hébergements touristiques qui ont tout simplement arrêté de communiquer, alors que paradoxalement, les connexions sur les réseaux sociaux, elles ont explosé et elles continuent d'exploser. Et c'est peut-être le moment finalement de creuser l'écart avec ses concurrents. Donc c'est vraiment pour moi un outil à part entière du digital et qu'il faut surtout pas négliger. En plus, le parcours client, il a changé. On est très loin de l'époque où les clients réservaient par téléphone leur séjour. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont souvent consultés avant même notre site internet et ils deviennent véritablement pour certains le premier canal d'acquisition client. Donc, pour répondre à ta question, un grand oui, ils sont indispensables, quoi. Alors d'ailleurs, les réseaux sociaux, ils évoluent dans ce sens et mettent en place de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de ne pas avoir besoin de renvoyer notre audience vers d'autres plateformes. Et du coup, on a moins de risques en fait de les perdre si on les envoie sur notre site internet. Je pense notamment à la fonctionnalité guide sur Instagram qui est relativement récente et qui nous permet de créer une sorte de mini-blog, mini-site qu'on peut même envoyer en message privé à nos abonnés et qui me semble particulièrement pertinent pour notre secteur. On peut l'utiliser de différentes façons. Et par exemple, si vous avez un message, un client qui vous demande quels sont nos différents types de chambres, et bien hop, vous envoyez le guide présentation et vous concluez directement la réservation sur Instagram, quoi.
Ah, mais tu vois, je ne savais même pas qu'on pouvait les envoyer. Moi, je m'en suis servi un peu comme des albums, effectivement, où j'ai fait l'album les chambres, les extérieurs, etc. Mais je n'avais pas poussé la réflexion au-delà et je ne savais pas que je pouvais les envoyer telles quelles.
Si, tout à fait, tu dois avoir les 3 petits points classiques en haut à droite et tu copies le lien ou quelque chose comme ça, mais tu peux les partager en message privé et c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas encore, je trouve, et qui est très intéressant.
Super. Mais du coup, sur quels réseaux sociaux faut-il qu'un propriétaire de gîte ou de maison d'hôte soit impérativement présent ?
Alors, dans un monde idéal et avec une équipe marketing complète à sa disposition, en tant qu'hébergement touristique, on a vraiment le potentiel d'être présent sur tous les réseaux sociaux, ou en tout cas les principaux. Pour citer les principaux, justement, on pourrait penser à Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Il y a LinkedIn, Pinterest, qui n'est pas tout à fait un réseau social, mais quand même, qui est quand même classé dans cette catégorie-là. Et le petit dernier qui monte tranquillement, même sûrement, TikTok. Mais si on est un minimum réaliste, vous ne pouvez pas être présent partout, surtout si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel. Je vous déconseille de vous lancer à corps perdu sur tous ces réseaux sociaux-là. L'idée, c'est plutôt de tester, analyser et de choisir, en fait. Et ce qui nous permet de choisir, en fait, ou en tout cas tester dans un premier temps un réseau social plutôt qu'un autre, eh bien, on va en fait réfléchir à son client idéal. Et je crois que vous avez fait un sujet là-dessus en webinaire. C'est vraiment la base de tout. Et elle doit être cette réflexion, elle doit être faite en premier. Et elle est extrêmement importante pour les réseaux sociaux parce que si concrètement votre cible c'est la tranche des 45 ans et plus, TikTok n'est peut-être pas fait pour vous, quoi. Donc voilà, il faut déjà se poser pour réfléchir à son client idéal et puis tester les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux pour vous en termes de retour sur investissement. Instagram fonctionne peut-être très bien pour votre concurrent, mais peut-être pas pour vous. Donc voilà, c'est là où en fait on doit faire une réflexion personnelle, en fait. Mais si je devais situer à l'heure actuelle des réseaux sociaux indispensables pour vous, je dirais quand même qu'une présence qualifiée sur Facebook et Instagram, c'est le minimum, mais c'est déjà bien.
D'accord. Et en distinguant des publications pour Instagram et pour Facebook, parce que moi, par exemple, je suis je suis le pire exemple. Je publie sur Instagram, puis je coche le petit bouton qui me permet d'automatiquement le mettre sur Facebook aussi. Donc déjà, je répète la même chose sur les deux canaux. J'imagine que ça, c'est pas la bonne pratique à faire.
Alors, à défaut de mieux, on va dire que c'est bien. Il faut mieux quand même que ça vive des deux côtés, plutôt qu'il y ait on soit à 100% sur Instagram et 0% sur Facebook. Cette connexion, elle peut être intéressante, mais je pense quand même que Facebook, on n'est pas tout à fait sur les mêmes usages, et en plus sur Facebook on a des fonctionnalités qui sont super intéressantes, comme faire comme mettre des liens, ça on peut pas le faire sur Instagram. Donc effectivement, c'est comme je disais, à défaut de mieux, ça va, mais on peut se permettre de faire des publications complètement différentes.
Alors, on va peut-être un peu plus se focaliser sur Instagram aujourd'hui, en commençant déjà donc par la création du compte. Est-ce qu'il faut choisir un compte professionnel ? Est-ce qu'on peut, si on a déjà un compte perso, commencer à faire la publicité de notre établissement sur le compte perso ? Est-ce qu'il faut mieux distinguer ces deux orientations?
Alors, je pense qu'il faut directement, en fait, distinguer ces comptes, notamment car vous avez trois types de comptes, en fait, sur Instagram, donc personnel, professionnel et un autre créateur. Et en fait, leurs différences sont que seuls les comptes professionnels et créateurs vous proposent des statistiques détaillées qui vont vous permettre de définir et d'adapter votre stratégie. Et donc, de, in fine, booster votre taux d'occupation, parce que sans analyse de ces statistiques, vous n'allez pas pouvoir calculer, en fait, les retombées de votre travail. Donc, par défaut, Instagram va vous mettre en profil personnel, mais changez directement pour un profil plutôt professionnel, même ou créateur, mais vraiment professionnel, c'est celui où vous allez avoir accès, en fait, à toutes les fonctionnalités que Instagram propose, et en plus il vous permet de renseigner des coordonnées physiques, donc votre adresse postale, qui me semble particulièrement pertinent pour notre secteur, quoi.
Pour la construction de la bio Instagram, est-ce qu'il y a des règles à suivre que tu pourrais nous partager ?
Ouais, c'est une bonne question, Laura, car c'est vraiment l'endroit qui est le plus important, pas le plus important, mais qui est vraiment un socle, en fait, de notre profil Instagram. Et c'est là qu'on peut faire toute la différence. Notre profil, c'est la première impression de notre établissement. C'est un peu notre vitrine, notre carte de visite. La biographie, c'est le principal pilier de notre... C'est notre principal pilier, en fait. C'est notre chance de transformer un visiteur en abonné et, par extension, je vous le souhaite, un abonné en client. Donc, on ne doit pas négliger sa construction, comme tu dis. Et il y a différentes règles, ou en tout cas des bonnes pratiques, qu'on doit respecter. Donc, si je devais vous en donner quelques-unes, déjà, c'est soigner votre photo de profil. Si vous avez un logo, c'est très bien, vous mettez votre logo. Et si vous avez envie de communiquer un petit peu, de manière un petit peu plus humaine, entre guillemets, vous pouvez même mettre une photo de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est vraiment pas mal et qui vous permet de vous différencier peut-être de vos concurrents. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais il y a peut-être un petit point là-dessus tout à l'heure. Au niveau du nom, donc le nom, ce n'est pas le pseudo, c'est quelque chose qui est différent. En fait, votre nom, c'est ce qui apparaît en gras sur votre profil. Il faut savoir qu'il est donc complètement dissocié du pseudo. Et là, vous disposez de 30 caractères pour mettre vos mots-clés, pour favoriser en fait un référencement sur l'application. C'est le seul endroit qui est utilisé par Instagram dans la barre de recherche, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, si je suis un client et je recherche une maison d'hôte en Normandie, eh bien, j'ai plutôt intérêt si je suis justement un propriétaire d'une maison d'hôte en Normandie, à avoir dans mon nom ces mots-clés-là, en fait.
Dans le nom ou dans la bio ?
Alors, en fait, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a le pseudo. Donc, le pseudo, c'est en fait notre élément de connexion. Donc, si on se représente, si on essaie de visualiser la biographie, donc il y a la photo de profil. En gras, à droite, vous avez le nom. Donc, le nom, ce n'est pas le pseudo.
Tout à fait. Moi, par exemple, donc, on va prendre mon cas de Gîtes Le Moulin de Bernard. C'est mon pseudo pour me connecter et pour que les gens me retrouvent. Ouais. C'est mon at.
C'est ça.
Je ne sais pas comment on dit.
Exactement, c'est ton at.
J'ai mis mon logo pour la photo de profil et juste en dessous, en gras, j'ai marqué gîte de groupe Lotte 46.
Eh bien, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il faut faire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui répètent, parce qu'ils ne le savent pas justement, ils répètent leur pseudo en fait, alors qu'au final, il faut plutôt l'utiliser comme un mot-clé, comme sur Google en fait.
Un complément d'information.
Exactement, exactement. À moins que vous ayez une réputation incroyable et que les gens ne vous connaissent que par le nom de votre établissement, là vous le mettez. Mais sinon, c'est pas la meilleure pratique. Il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire de plus intéressant en utilisant des mots-clés. Ensuite, on a ce qu'on appelle le corps de la biographie. Donc ça, en fait, c'est la partie texte. Vous avez 150 caractères disponibles pour vous exprimer et pour faire la fameuse différence dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir indiquer vos atouts différenciants, qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, et ajouter un appel à l'action pour inciter votre audience à soit rentrer en contact avec vous directement en message privé ou bien à cliquer sur votre lien. Alors, il y a un dernier élément qui fait partie de la biographie qu'on néglige parfois, c'est la partie story à la une ou story permanente. Il y a deux dénominations. Ici, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 10 stories et qui restent de façon permanente. Donc, vous savez, les stories, ça ne dure que 24 heures. Là, en fait, si vous ne les supprimez jamais, elles peuvent rester à vie. Donc, je vous disais, vous pouvez en mettre jusqu'à 10, mais il n'est pas question d'utiliser les 10, sinon ça va vraiment faire fouillis et finalement, vous n'allez pas être stratégique. Et c'est vraiment ce qu'on veut ici. Vous devez utiliser cet espace pour permettre en fait à un prospect potentiel d'avoir à disposition toutes les informations nécessaires en un coup d'œil pour effectuer sa réservation. Donc si vous commencez à mettre une story jardin, une story témoignage, une story récolte du jour, enfin je sais pas, il y a plein de sujets qui sont possibles, vous allez un petit peu perdre tout le monde. Il faut vraiment là être concret, faire comme une catégorie de site internet, établissement, chambre, valeur, destination, témoignage. Et déjà ça, c'est peut-être un peu trop, mais ça, voilà, il faut être un petit peu plus stratégique là-dessus. Donc, n'oubliez pas d'utiliser cette partie-là, mais de bien l'utiliser. Et d'ailleurs, adaptez vos couvertures de story à la une à votre identité visuelle pour avoir un compte harmonieux et surtout professionnel.
En parlant d'identité visuelle, donc souvent, on crée un site internet, on se crée un logo et on a donc une charte graphique. Est-ce que tu penses qu'il est indispensable d'utiliser cette même charte pour les réseaux sociaux ou d'en créer une nouvelle ?
Alors, vous devez absolument être un maximum cohérent et consistant dans votre communication. Sur tous les supports, il doit y avoir un fil conducteur, en fait, car plus vous serez reconnu par votre audience et prospects, donc c'est le but de l'identité visuelle, hein, c'est d'être remarqué, identifiable et mémorable, et bien plus, en fait, votre audience, elle aura confiance en vous, elle sera fidèle envers votre business, en fait, finalement. Et donc, si on devait schématiser tout ça, on pourrait retenir, en fait, que la confiance et la fidélité, enfin, l'association des deux, en fait, nous permet de vendre et d'être rentable. Et c'est notre objectif numéro un sur les réseaux sociaux. Et c'est, en fait, l'identité visuelle, c'est là où, finalement, vous allez pouvoir aussi faire la différence, en fait, avec vos concurrents. C'est là que vous allez soit avoir impacté de manière négative parfois votre établissement et de manière positive, et je le vous souhaite, car on voit souvent des choses qui sont complètement farfelues dans les identités visuelles, des choses qui ne sont pas adaptées à votre cible. Par exemple, vous êtes une maison d'hôte de charme de type plutôt bourgeoise, hein, voilà, vous avez une cible qui est clairement les CSP+, et vous allez avoir sur Instagram une identité visuelle composée de couleurs comme du fuchsia, du vert anis, et des écritures un peu fantaisistes, qui auront été mal déterminées, et qui ont d'ailleurs été déterminées par vous et pas par un professionnel, et là, clairement, vous tirez une balle dans le pied parce que vous ne revoyez pas l'image une bonne image de votre établissement. Et c'est dommage, je sais que généralement les gens veulent bien faire, mais ils ne le font pas de la bonne manière.
Quelles sont les bonnes pratiques pour cette nouvelle année ?
Alors, on l'a vu tout à l'heure, nos façons de consommer sont en train de profondément changer, et donc très logiquement, il faut également qu'on change nos manières de communiquer. Et les bonnes pratiques d'hier sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Et pour cette émission, donc tu m'avais parlé un petit peu du thème, donc j'ai préparé une liste de 5 principales bonnes pratiques à retenir et à envisager cette année pour ces réseaux sociaux. On va le voir, je n'ai pas cité des bonnes pratiques comme être régulier, poster des contenus de qualité, ce sont des choses qui sont logiques et que maintenant vous savez déjà. Ici, on va être un petit peu plus précis et voire même quelquefois original. Alors, mon premier conseil pour 2021, c'est vraiment de miser sur l'interaction. On oublie souvent que dans l'expression réseau social, il y a le mot social. Alors, ça peut nous arranger parce que le mot social, ça peut faire un peu peur, mais les réseaux sociaux vous permettent de créer un lien. Ils ont été créés pour ça. Et c'est ce lien fort que vous allez au fur et à mesure construire avec votre audience qui va vous permettre de vendre et de fidéliser. Et il faut absolument réussir à entrer en interaction avec eux. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain, mais étape par étape, vous allez voir, vous allez pouvoir en fait tisser une relation de confiance avec votre audience. Et ça change tout. À titre perso, dès que j'ai commencé à communiquer en mon nom, que j'ai commencé à faire des stories, ce qu'on appelle des stories en face cam, les gens sont venus vers moi, ils m'ont posé des questions, ils se sont davantage intéressés en fait à ce que je proposais. Il faut donc absolument réussir à rentrer en interaction avec eux. Mais attention, vous ne pouvez pas demander à votre audience d'interagir avec vous si vous-même, vous ne le faites pas, en fait. Je vois trop de personnes qui postent un contenu et ensuite qui disparaissent. C'est pas comme ça que ça marche, ça serait vraiment presque trop facile. Les réseaux sociaux, et en particulier Instagram, ils aiment les relations sincères. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, mais leurs algorithmes sont plutôt bien foutus et ils arrivent à juger l'authenticité des interactions. Donc, voilà, la première étape, c'est déjà de vous-même interagir avec votre audience. Pour cela, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est vraiment d'essayer de créer en fait une espèce de petite routine quotidienne d'environ 30 minutes. Vous allez aller interagir avec vos abonnés sur votre compte, mais également sur leur compte à eux. Et aussi, plus largement, sur les comptes de vos concurrents. Vous allez répondre à tous vos commentaires, à vos messages privés. Vous allez, par exemple, rédiger 10 commentaires par jour sur des publications de comptes qui sont abonnés à vous ou bien des comptes où se trouve votre cible. Tout simplement, dans notre secteur, ça pourrait être, par exemple, vous rendre sur le compte de votre office de tourisme local et d'écrire des commentaires, d'aller liker, de voir qui a commenté les publications et pourquoi pas rebondir sur le commentaire d'un potentiel prospect. Enfin, voilà, en fait, il faut vraiment travailler là-dessus, sur des relations en fait réciproques entre vous en tant qu'hébergement touristique et vos prospects. Et cela me permet d'ailleurs de faire le lien avec mon prochain conseil qui est de se mettre en avant et de montrer ses valeurs. Vous êtes unique, votre établissement aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait votre force en tant que maison d'hôte, gîte ou hôtel indépendant. Vous êtes différent et c'est ce que vos clients, ils aiment chez vous. Donc il faut absolument exposer votre personnalité au monde entier ou presque au travers de stories, de vos publications, dans vos légendes. Quelle est l'histoire de votre établissement? Qui se cache en fait derrière votre compte? Vous êtes unique, il faut vraiment le montrer et vous allez cartonner quoi si vous faites ça. Alors ça m'emmène aussi à un troisième point qui va vous permettre d'ailleurs de vous mettre en avant, c'est la fonctionnalité des stories. Si vous n'avez pas encore intégré les stories dans votre stratégie social media, vous passez à côté d'un outil qui est vraiment très puissant. Premièrement, car une majorité des utilisateurs sur Instagram ne consultent que les stories. Les gens ne prennent plus le temps de regarder les publications, en fait. En plus, elles sont particulièrement mises en avant sur Instagram. Elles vous offrent en fait une place de choix pour booster votre visibilité, parce que quand on se connecte sur l'application, c'est la première chose qu'on voit en haut, tout en haut en fait. Donc c'est là où on a envie de cliquer en premier. Donc moi je vous conseille vraiment si vous ne vous êtes pas encore mis aux stories, à en faire plusieurs fois par semaine. Moi par exemple j'en fais tous les jours. Voilà, il y a plein d'opportunités pour faire des stories, plein de sujets. Il faut vraiment les utiliser. En plus, vous avez des fonctionnalités qui sont super intéressantes sur cet outil. Vous avez par exemple les sondages, les quiz. Il y a plein de choses super sympas et ludiques que vous pouvez faire pour encore une fois favoriser les interactions avec votre audience. Alors mon quatrième conseil va peut-être vous faire tomber de votre chaise. Alors accrochez-vous. Vous devez trier vos abonnés. Je répète, vous devez trier vos abonnés. Il faut voir ça en fait comme un nettoyage de printemps. On a tous sur notre compte des abonnés qui sont inactifs, qui ne sont pas intéressés par notre contenu et qui n'ont absolument rien à faire là. Ces personnes-là, elles sont vraiment néfastes pour notre visibilité. Je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, mais lorsque vous publiez un contenu, Instagram va le montrer dans un premier temps un petit échantillon de votre audience pour en quelque sorte en fait, tester la température et voir leur réaction. S'il y a de l'engagement sur votre nouvelle publication, c'est super. Instagram va vous adorer et il va estimer que votre publication elle est de qualité et qu'elle mérite de continuer d'être mise en avant. Alors qu'au contraire, si vous n'avez que des abonnés inactifs ou non ciblés, qui ne vont donc pas interagir avec votre contenu, Instagram, il va en quelque sorte enterrer votre publication et votre visibilité, elle va petit à petit dégringoler et vous n'arriverez pas à capitaliser sur vos réseaux sociaux. Donc, si vous inquiétez que votre principal concurrent, il ait 10 000 abonnés et pas vous, c'est vraiment pas la taille de l'audience qui compte, mais c'est sa qualité. Donc, vous avez vraiment aucune inquiétude à vous faire là-dessus. Donc, personnellement, moi, j'ai réalisé un gros tri il y a un mois. Et maintenant, je supprime au fur et à mesure mes nouveaux abonnés du jour qui sont là parce qu'ils ont envie que je les voie, mais moi, je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Et en fait, c'est des spams, quoi. Et si vous faites ce tri-là, vous allez voir, votre taux d'engagement, il va augmenter, il va même exploser. Et au final, vous allez être beaucoup plus visible, vous allez être visible d'une manière plus pertinente.
Concrètement, comment on reconnaît un compte fantôme? Comment je peux savoir si je dois le supprimer ou pas?
Alors, c'est super simple, vous allez voir, c'est comme un nez au milieu de la figure, où on les reconnaît tout de suite. Pour ce faire, vous allez sur votre compte Instagram, bien sûr, vous cliquez sur votre liste d'abonnés. Vous allez pouvoir trier par ordre alphabétique, c'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver parce que ça prend quand même un petit peu de temps, je dois vous l'avouer. Donc vous triez par ordre alphabétique, vous cliquez sur chaque compte et vous supprimez tous les comptes qui n'ont pas de photo de profil, qui sont abonnés à plus de 1000 comptes. Parce qu'ils n'avaient absolument aucune chance d'être affichés dans leur fil d'actualité. Les comptes qui n'ont posté aucune publication, donc généralement vous avez 0, 0 et 3000 en chiffres. Donc franchement, on le voit tout de suite. Et vous supprimez tous les comptes qui vous semblent un peu étranges. Des fois, on ressemble, je sais pas toi, Laura, mais moi, des fois, je reçois des messages de personnes qui veulent faire des rencontres un petit peu chelou.
Ah non, ça, c'est que toi.
Voilà, c'est ce genre de compte. C'est que moi. Oh, mince. Donc, franchement, vous voyez bien de quoi je parle, quoi. C'est ce genre de compte, il faut les supprimer. Ils n'ont rien à faire là. Et ils vous nuisent. Donc,
Il y a des comptes aussi, je me suis rendu compte, qui en story n'ont que des partages de concours. Et sur la journée, il y a 15 stories où c'est des concours différents, mais c'est leur passion, c'est juste essayer de participer à des concours.
C'est ça.
J'ai trouvé ça très drôle.
Ouais, c'est ce genre de compte dont on ne veut pas. Exactement. Donc c'est vraiment, ouais, c'est des comptes spam en fait. Ça peut même être des robots, enfin bref. Ça sert à rien, quoi. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand vous allez commencer à faire le tri, que vous allez voir que vous allez avoir des abonnés, des anciens clients qui vont tout d'un coup recommencer à liker vos publications, parce qu'en fait, vos publications n'étaient tout simplement pas mises en avant par Instagram, parce que votre taux d'engagement était très mauvais, quoi. Voilà. Alors, et pour terminer, donc il y a un dernier point ou une dernière bonne pratique que je voulais partager aujourd'hui, c'est qu'il faut vous positionner comme une source d'inspiration pour votre audience. Vous devez donner une bonne raison aux socionautes, donc les utilisateurs des réseaux sociaux, de s'abonner à votre compte. Qu'est-ce que votre compte va leur apporter comme valeur au quotidien? Quelle est votre promesse envers eux? Si on prend mon compte Instagram, moi j'ai des hébergements touristiques qui me rejoignent tous les jours car je leur fournis des conseils gratuits de manière quotidienne pour développer leur activité. Et ça, c'est clairement une super raison de s'abonner. Pour vous, on peut pas faire ça, mais par contre, ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire d'un gîte, d'une maison d'hôte ou même d'un hôtel, vous pouvez par exemple devenir leur source numéro 1 d'inspiration pour un séjour sur votre territoire. Vous devez devenir un véritable ambassadeur de votre secteur touristique. Et ça, quand vous allez commencer à réfléchir comme ça, vous allez voir que ça vous permet d'avoir d'autres idées de contenu que vous n'aviez pas. Vous allez d'ailleurs pouvoir varier ce type de contenu qui ne doit pas toujours être en rapport avec vous et votre établissement. Vous devez absolument sortir en fait de ce cadre-là. Car avant de vous choisir, vos prospects, en fait, ils choisissent généralement une région. Donc, si vous vous positionnez comme un ambassadeur de votre territoire, vous donnez envie à des socionautes de s'abonner, en fait. Concrètement, ce que vous pourriez faire, c'est, par exemple, partager vos bons plans, des recettes locales, des anecdotes, des spots un petit peu secrets pour sortir des sentiers battus, des choses que... où c'est, en fait, votre compte, c'est le seul endroit où on peut trouver ça. Donc, si c'est le seul endroit où je peux trouver ça, eh bien, moi, je m'abonne tout de suite, quoi. Alors, après, il faut toujours mettre en avant son établissement, ça, c'est clair. Mais il faut essayer de ne pas faire que ça, quoi. Et puis, voilà, en partageant des anecdotes, des trucs comme ça, vous allez jouer sur, en fait, l'émotionnel. Vous allez faire dégager de vos contenus des émotions qui sont positives. Et ça, c'est vraiment mon conseil numéro un pour réussir à capitaliser sur vos réseaux sociaux. Il faut être dans l'émotion. Donc voilà en gros les 5 points que je voulais aborder aujourd'hui. Donc miser sur les interactions, humaniser son contenu en se montrant davantage, réaliser des stories, faire le tri de ses abonnés et donner une bonne raison aux personnes de vous suivre, quoi.
Super, très intéressant. Et ça donne vraiment les clés pour vraiment bien orienter notre stratégie.
Trop cool, bah c'est le but, je suis contente.
J'ai des petites questions encore plus, on va dire, ciblées. On parle beaucoup des hashtags. Je voulais savoir si ben, en 2021, les hashtags étaient toujours utilisés, utiles, ou si c'était devenu has-been, et si il fallait utiliser les 30 qu'on pouvait mettre, voilà. Quel est ton regard par rapport aux hashtags ?
Elle fait toujours rire cette question, mais oui, les hashtags, ils sont toujours utiles. J'ai d'ailleurs fait un e-book dédié sur ce sujet-là, donc c'est que le sujet est vraiment... il y a vraiment quelque chose à dire dessus. Moi, je pense que, en fait, les hashtags, ils ont une mauvaise image, et c'est souvent parce qu'en fait, ils sont mal utilisés. Alors qu'en fait, avec une stratégie qui est bien définie, ils vont nous permettre d'améliorer notre visibilité avec cet effet un petit peu toile d'araignée, puisqu'on peut ajouter, comme tu l'as dit, jusqu'à 30 hashtags, et en fait, c'est 30 portes d'entrée. Pour construire votre stratégie, vous avez plusieurs bonnes pratiques. Déjà, choisissez des hashtags en rapport avec votre publication. Par exemple, si vous postez la vue de votre chambre, qui est une magnifique vue sur la mer, eh bien, vous mettez hashtag bord de mer. Vous devez également utiliser des hashtags en rapport avec votre industrie. Donc, par exemple, hashtag hôtel 4 étoiles, en rapport également avec votre niche, donc, par exemple, hôtel de charme, votre localisation, donc si vous êtes en Normandie, vous mettez le hashtag Normandie. Voilà, en fait, il ne faut pas choisir ces hashtags de manière un peu aléatoire. Je vois beaucoup, par exemple, de personnes qui mettent le hashtag hôtel. Le hashtag hôtel, il y a des millions de personnes qui utilisent ce hashtag. Clairement, ce n'est pas une porte d'entrée, c'est un trou de souris, quoi. Jamais des personnes vont voir votre publication grâce à ce hashtag-là. Il faut être très précis dans ces hashtags. Et vraiment se concentrer sur des plus petits hashtags, et ça on peut le savoir en fait en cliquant directement dessus, on a le nombre de publications qui sont connectées à ce hashtag.
Alors comment on détermine si un hashtag est trop utilisé ?
Et ben, c'est tout simple, en fait vous cliquez sur le hashtag et ça va vous renvoyer à une page principale où vous allez avoir en fait tous les contenus, toutes les publications où le hashtag a été utilisé. Et tout en haut, en gras, vous allez avoir en gras, donc vous avez le hashtag, et en dessous, de mémoire, hein, en gris, vous avez le nombre de publications. Et là, si vous voyez des chiffres comme 1 million, des fois ça ne peut même, enfin des fois c'est beaucoup plus, vous oubliez, vous ne serez pas visible. On va plutôt, en fonction encore une fois de sa notoriété, parce que ça aussi c'est important, c'est là où je dis qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'il faut faire en fonction de soi. Voilà, si vous...
En fait, il faut se dire que si les personnes font des recherches par hashtag, mieux vaut ne pas nous utiliser des hashtags trop populaires pour ne pas être noyé dans cette masse, mais aller dans des hashtags plus petits, moins utilisés, mais pour vraiment cibler l'audience. Okay.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut. C'est quelque chose qu'il faut quand même réfléchir, hein, ça. Hein. Il faut se poser, pas une journée, mais peut-être une demi-journée, et puis regarder, se poser des questions, encore une fois, de qui est notre client idéal et comment on va le trouver, quoi. Et les hashtags, ça peut être une bonne solution pour les trouver et les faire venir.
J'avais lu un article également qui disait qu'il fallait varier les hashtags sur chacune de nos publications, sinon pareil, l'algorithme nous mettait dans l'ombre. Est-ce que c'est réel?
Alors, il faut effectivement les varier. De manière générale, Instagram n'aime pas les comportements qu'il peut assimiler à ceux d'un robot, en fait. Donc, à partir du moment où vous allez copier-coller des choses, attention, je ne vous conseille pas. Essayez de changer, même si vous changez de place, ça peut déjà être un bon début, mais essayez aussi d'avoir 3-4 listes en fonction des types de contenus que vous postez avec des hashtags qui sont différents et puis vous tournez comme ça. Moi, c'est ce que je fais.
Tu disais un peu plus tôt que les stories étaient maintenant le plus visité par les socionautes. Est-ce que pour autant, il y a toujours cette importance à apporter sur le feed avec une certaine harmonie? Je sais qu'Instagram, au tout début, c'était très léché. C'était vraiment, le feed devait avoir un côté esthétique vraiment poussé à l'extrême. Est-ce que c'est encore le cas?
Alors, oui et non, ça reste important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas envie de voir des choses complètement délirante en termes d'identité visuelle, mais d'un autre côté, on a envie de vrai, d'authentique, et si votre photo elle n'est pas parfaite, et ben c'est pas grave, les gens ils vous pardonneront en fait. On a vraiment envie il faut vraiment en fait être soi-même. C'est pas non, c'est ce qui était vrai, comme tout à l'heure je le disais, ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Ça va peut-être avoir un bond en arrière, peut-être que ça va redevenir très important. C'est important, mais il faut pas vous freiner de poster un truc parce qu'il n'est pas parfait, quoi. C'est là où je veux en venir.
Tu as évoqué un petit peu la fréquence. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a quand même une règle sur la fréquence de publication?
Alors, je vais peut-être te décevoir, mais il n'y a encore une fois pas vraiment de règle là-dessus. Pareil, il faut tester et voir ce qui fonctionne le mieux pour soi. Et par ce qui fonctionne le mieux pour soi, j'entends, est-ce que si vous publiez qu'une publication par semaine, vous constatez que votre nombre d'abonnés, il continue quand même de progresser? Si oui, c'est que c'est un bon signe, vous pouvez continuer comme ça. Mais au contraire, si vous publiez tous les jours, vous avez de fortes chances d'être considéré comme un spam par votre audience et être une véritable nuisance. Et là, les gens vont s'empresser peut-être de se désabonner. Donc il faut, mais peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont envie de vous voir tous les jours. Donc il faut en fait réussir à trouver le juste milieu. Vous devez vous poser plusieurs questions, parce que déjà, de quel réseau social on parle, les habitudes de votre cible sur Twitter, c'est pas les mêmes que sur LinkedIn ou Instagram. Il faut aussi voir vos objectifs. Et quel est le temps que vous avez aussi pour créer des contenus de qualité? Donc en fait, il n'y a pas de règle absolue, sinon je vous la donnerais encore une fois. La meilleure pratique, c'est de tester, d'apprendre, et puis et aussi de vous souvenir que la qualité, elle passe avant la quantité. Et si vraiment on me mettait un couteau sous la gorge, on me disait mais combien il faut que je publie de publications par semaine? Je dirais que le minimum, quand même, c'est 2 à 3 publications, pour notre secteur en tout cas, par semaine sur Instagram.
Génial, on a fait vraiment le tour sur les bonnes pratiques et sur la façon de créer un lien avec son audience. Si on souhaite rester informé des nouvelles fonctionnalités ou des tendances qui sont sur les réseaux sociaux, est-ce que tu aurais des sites à nous conseiller pour rester informé?
Il y a mon compte déjà, il y a mon compte Instagram où je vous parle de tout ça. Il y a également votre groupe Facebook, donc les clés du gîte. Plus sérieusement, moi je consulte beaucoup de ressources en anglais, comme le site later.com, donc later.com, où là on a vraiment toutes les dernières fonctionnalités, parce qu'ils sont partenaires en fait avec, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'ils sont partenaires avec Instagram, donc on a vraiment toutes les dernières infos. Mais il s'agit vraiment de conseils qui sont généraux et sans distinction de secteur. Donc moi je suis toujours à la recherche de nouvelles ressources, donc si toi ou tes auditeurs en ont, moi je suis preneuse, mais vraiment des ressources en français, spécifiquement réalisé pour notre secteur avec les dernières fonctionnalités des réseaux sociaux, ça j'en connais pas trop.
Alors nous voilà déjà à la fin de cet épisode et pour conclure, pourrais-tu nous dire quel gîte ou maison d'hôte te fait rêver et te donne envie de partir pour le week-end ?
Alors j'ai pas d'endroit particulier en tête, mais par contre j'ai un désir profond d'évasion, et comme moi je l'ai pas dit mais je suis normande, je séjournerai volontiers dans un endroit avec du soleil, un soleil avec un grand S, donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos bons plans, il y en a beaucoup je suis sûre, mais voilà, j'ai vraiment envie de soleil quoi.
C'est lancé, l'appel est lancé. Alors, et pour terminer, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter, Cécile ?
Eh bien, ils peuvent me retrouver sur Instagram, on en a beaucoup parlé, donc vous pouvez me retrouver avec mon at qui est Cécile Noël, Noël comme la fête, et juste devant, vous mettez le petit tiré du 8. Et vous pouvez également me retrouver sur mon site internet, donc Noctis Communication.
C'est parfait. Mais écoute, merci beaucoup Cécile pour ton temps et tous ces conseils. Je pense qu'Instagram n'aura bientôt plus de secrets pour nous.
Merci à toi Laura pour ton invitation et j'espère vraiment que tes auditeurs ils auront appris plein de choses, qu'ils vont pouvoir se nourrir de tout ça et développer leurs réseaux sociaux. J'espère aussi que leur écoute leur a été agréable, car c'est pour moi une grande première ce podcast et c'est pas un exercice évident. Mais voilà, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et je crois que c'est bien de le faire quelquefois. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi, Laura, aujourd'hui.
Mais c'est réciproque et moi je trouve que tu as fait ça avec brio. Alors j'espère que c'est une première, mais surtout pas une dernière. Je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à très bientôt.
À bientôt, Laura, salut. Might be real hard to find my way now.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, @lesclésdugite, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode, et bien plus encore. À très vite !